Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter, à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes le 29 décembre à la une de l'actualité ce matin. Plusieurs départements d'Île-de-France, dont Paris, sous nouvelles restrictions préfectorales. Masque obligatoire à partir de demain, partout en extérieur dans la capitale et pour le réveillon. Les bars devront baisser le rideau à 2h du matin. Bonjour Laurence Thomas, les autres titres.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Et bien comme pour le réveillon de Noël, c'est la ruée sur les autotests. 1 million de Français positifs au Covid. Information France Inter, la reprise du procès des attentats du 13 novembre repoussée en raison du Covid de Salah Abdeslam, le principal accusé. En Chine, les habitants de la ville de Xi'an confinés et avec interdiction de sortir. Certains habitants n'ont plus rien à manger. Et à la fin de ce journal, eh bien vous saurez tout sur les nouvelles séries télé de 2022.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, un éditeur qui passe à l'écriture pour la première fois, Manuel Carcassonne, patron des éditions Stock, publie en cette rentrée littéraire, Le Retournement, un essai autobiographique autour de l'identité et de la judéité. À 8h20, Yaël Gauz me rejoindra pour le grand entretien de la matinale avec le psychiatre Raphaël Gaillard, patron du pôle psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. On évoquera la grosse fatigue des Français face au Covid. Vos témoignages, vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. On parlera aussi du lien entre folie et créativité puisqu'il publie un essai érudit intitulé « Un coup de hache dans la tête » chez Grasset.
France Inter. C'est une mauvaise nouvelle pour une partie du francilien qui espérait faire la fête demain soir jusqu'au bout de la nuit. Le coup préfectoral est tombé hier soir pour l'instant sur les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-de-Marne et bien sûr Paris où le taux d'incidence dépasse les 2000 pour 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'un habitant sur 50 est aujourd'hui positif au Covid-19. Un record, tous les voyants sont au rouge dans la capitale, d'où ces nouvelles restrictions prises par le préfet Didier Lallement, dont le retour du masque en extérieur partout demain. Et pour cette mesure, comme pour les autres concernant l'alcool et les bars, eh bien 9000 policiers et militaires vont être mobilisés, Manuel Leclerc.
Tous seront déployés dès demain dans tous les grands lieux accueillant du public pour le réveillon dans la capitale. Près de 80% des effectifs sont mobilisés. Jérôme Jiménez est le délégué UNSA Police Île-de-France.
On n'a pas, si vous voulez, attendu les recommandations particulières de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour déployer un maximum de force. Tout était déjà bien prévu en amont pour ce vendredi soir, ça c'est certain. Parce que voilà, c'est un moment qui est sensible, encore plus avec la Covid. Et puis malheureusement, si on n'a pas le choix, en dernier recours, on verbalisera les gens qui les plus récalcitrants, ça c'est certain. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont faire attention, qui veulent des endroits sécurisés. Vraisemblablement, il y aura vraiment moins de monde sur la voie publique, on en est certain.
Depuis hier soir, les quelques 9000 policiers parisiens et les gendarmes mobiles qui seront déployés demain pour la Saint-Sylvestre dans la capitale, savent qu'ils vont devoir verbaliser le non-port du masque en extérieur, les rassemblements avec consommation d'alcool et même les pistes de danse improvisées dans les bars ou les restaurants et enfin, vérifier que tout le monde ferme vraiment les portes des établissements à 2h du matin.
Emmanuel Leclerc et puis le préfet de La Réunion a annoncé un couvre-feu de 3 semaines sur l'île à partir du 1er janvier. Il s'étendra de 21h à 5h du matin. C'est aussi à La Réunion le retour des attestations pour justifier de ses déplacements.
1 million de Français positifs au coronavirus et 10% de la population française cas contact. C'est dans ce contexte sanitaire inédit que 2022 va démarrer demain soir.
Alors pas de réveillon en grande pompe et surtout comme à Noël, dépistage vivement recommandé avant de se retrouver entre amis ou en famille. C'est la ruée sur les autotests devenus les incontournables de la Saint-Sylvestre. Ils sont en vente désormais dans les grandes surfaces, vendus par la plupart des enseignes à prix coûtant, 9,75 € la boîte de 5. Alors, aux côtés des cotillons et du champagne, ces autotests, Julien Morcelli.
Au bout du rayon, parapharmacie, Marine vient de déposer 10 autotests dans son caddie. Au nouvel an, chaque convive aura le sien.
Tout le monde se fait tester, justement pour ça que j'achète pour tout le monde. Le fait que ce soit là, accessible en grande surface, on ne fait pas la queue dans les pharmacies. Ma mère, elle est quand même personne à risque. Voilà, un peu aussi pour se détendre et se dire qu'on peut manger notre petit foie gras en étant les uns ou les autres tranquillement. C'est possible, quoi. Voilà, on ne se prend pas la tête et c'est pour faire la fête plus sereinement.
Son autotest dans le sac à main, Corinne, elle, ira réveillonner chez sa voisine à Drancy.
Oh, on n'est que 5, hein. On n'est pas nombreux à table déjà.
Pour le dernier dîner de l'année, tout le monde sera vacciné.
Sauf moi. Donc pour vous, le test, ça vous permettra quand même de fêter le nouvel an ?
D'être en confiance sur le fait d'être négatif ce jour-là.
Vanessa repart aussi avec ses écouvillons dans le chariot.
Mais je ne sais pas si c'est vraiment fiable. Non, si je veux un vrai doute, je préfère aller en pharmacie et encore mieux au labo.
Bon, et pour vraiment éviter tous les risques de contamination, il y a toujours la solution de Martine.
Moi, je ne fais rien, donc je serai chez moi. Donc le problème est réglé.
Reportage de Julien Morcelli au carrefour de Drancy en Seine-Saint-Denis. À l'Assemblée, le pass vaccinal a franchi cette nuit une première étape en commission avant le débat lundi dans l'hémicycle. Quelques nouveautés ont été introduites par amendement et notamment la prolongation jusqu'à l'été du remboursement à 100% des téléconsultations. Le dispositif devait s'arrêter demain.
Autre conséquence de la multiplication des cas de contamination au coronavirus, c'est une information France Inter. Le procès des attentats du 13 novembre ne pourra pas reprendre comme prévu la semaine prochaine.
Le Covid de Salah Abdeslam, principal accusé, est venu chambouler le calendrier judiciaire. Du coup, Jean-Philippe Deniaud, la reprise du procès prévue mardi prochain est décalée d'au moins 48 heures.
Salah Abdeslam avait été testé positif au Covid lundi dernier. Son état de santé ne présente jusqu'à présent pas d'inquiétude particulière. À la reprise des débats mardi prochain, le président de la cour d'assises spécialement composée va donc ouvrir l'audience et immédiatement ordonner une expertise médicale de l'accusé Abdeslam, dont les résultats attendus sous 24 heures permettront dans le meilleur des cas de reprendre le procès le jeudi 6 janvier avec donc 2 jours de retard sur le calendrier initial. Bien entendu, ce scénario ne tient pas compte de l'évolution de la situation pour les 10 autres accusés incarcérés de ce procès dans cette période où des contaminations sont signalées dans plusieurs centres pénitentiaires et notamment au sein du bâtiment D3 de la prison de Fleury-Mérogis où se trouve Salah Abdeslam. Les craintes de contamination en chaîne sont d'autant plus grande que ce scénario s'était déjà présenté l'an dernier en plein procès des attentats de janvier 2015 dont les débats avaient dû être suspendus pendant un total de 4 semaines à cause du Covid.
Jean-Philippe Deniaud, désavoué par la justice, le gouvernement belge a fait marche arrière. Il doit rouvrir les salles de spectacle et de cinéma. Sa décision avait suscité la fronde des milieux artistiques. Face aux restrictions européennes, la stratégie très dure du zéro Covid en Chine, les mesures de confinement se durcissent pour les 13 millions d'habitants de la ville de Xi'an. Ils ont interdiction désormais de quitter leur domicile. Les autorités chinoises ont admis avoir du mal à les approvisionner en nourriture à Pékin. La correspondance de Stéphane Pombrin.
Sur les réseaux sociaux chinois, les messages d'alerte se multiplient. « Je n'ai plus rien à manger, j'ai peur de mourir ». Depuis une semaine, les 13 millions d'habitants de Xi'an sont confinés chez eux après la découverte d'un peu moins de 1000 malades du Covid. Mais les autorités ont du mal à endiguer cette nouvelle flambée épidémique et ont renforcé les mesures de confinement. Il leur est désormais interdit de sortir pour se ravitailler. La mairie a reconnu avoir des difficultés pour assurer l'approvisionnement et a mobilisé des dizaines de milliers de volontaires pour apporter des vivres aux familles. Sun Yuping est l'un d'entre eux.
Nous livrerons les produits de première nécessité à l'entrée de chaque résidence. Les paquets de fournitures seront désinfectés. À l'intérieur du site, nous trierons les paquets et les déposerons au rez-de-chaussée de chaque bloc d'appartement.
Une logistique bien huilée est déjà utilisée lors des premiers confinements, comme il y a bientôt 2 ans, dans la ville de Wuhan. Pékin, Stéphane Pombrin, France Inter.
Ghislaine Maxwell, reconnue coupable de crimes sexuels par un tribunal de New York. La fille du mania de la presse, Robert Maxwell, était jugée notamment pour avoir fourni des jeunes filles mineures à son compagnon Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell encourt des dizaines d'années de prison. La France compte désormais 66 988 000 habitants, traditionnel recensement de l'INSEE, arrêté au 1er janvier 2019. Des chiffres qui n'ont pas pris en compte, bien sûr, les conséquences de la pandémie au niveau national. Ce recensement confirme en tout cas le désamour continu pour la capitale. Lentement mais sûrement, les Parisiens s'en vont pour d'autres contrées à l'immobilier plus abordable. La capitale a perdu près de 64 000 personnes en 5 ans. L'euro, 20 ans déjà que la monnaie unique est dans nos portefeuilles. C'est en 1992, à Maastricht, que les Européens se sont mis d'accord pour créer cette monnaie européenne. Ils étaient 12 pays à l'origine, ils sont aujourd'hui 19 États à payer en euros, auxquels s'ajoutent le Kosovo et le Monténégro, qui utilisent l'euro comme monnaie. De nouveaux candidats frappent à la porte, la Bulgarie, la Croatie. En 20 ans, l'euro s'est imposé comme la deuxième monnaie au niveau mondial, derrière le dollar. Ça n'a pas été de tout repos, Delphine Simon.
1er janvier 2002. Feu d'artifice, hymne à la joie et de l'enthousiasme à palper les nouveaux billets.
50 euros, je ne sais pas combien ça fait en francs, mais ça fait plaisir d'avoir des euros.
10 ans plus tard, la crise des dettes souveraines met la Grèce au bord de la faillite et menace toute la zone euro.
L'agence de notation Standard & Poor's place sous surveillance négative tous les pays de la zone euro notés triple A. 6 pays, dont la France et l'Allemagne, pourraient perdre leur précieux sésame.
Décision, sanction, car les États européens sont divisés. La BCE va jouer les sauveurs de l'euro. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, promet de tout faire. Il calme les marchés.
Is ready to do whatever it takes. To preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Mais l'addition est salée pour les ménages à cause des plans d'austérité. 13 mai 2020, face au risque sérieux que fait peser l'épidémie de Covid, l'Allemagne accepte ce qu'elle a toujours refusé, une dette commune pour financer le plan de relance européen. La chancelière allemande Angela Merkel.
Je suis favorable à une monnaie forte et commune, l'euro. Et nous allons agir en ce sens.
Selon le dernier Eurobaromètre, l'euro convainc près de 7 Français sur 10. C'est l'un des plus hauts niveaux de confiance en 20 ans.
Delphine Simon, à quoi serons-nous accros en 2022? La crise sanitaire n'a pas empêché les tournages de séries. La nouvelle année s'annonce très riche en la matière, à commencer par une déferlante de nouvelles franchises. Super-héros, dragons, les amateurs de fantastique seront servis, Alexandra Acoun.
Le Seigneur des Anneaux en septembre sur Amazon Prime Video, Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor sur Disney+, un peu plus tard dans la saison, mais la plus attendue c'est elle.
Dreams didn't make us kings, dragons did.
House of the Dragon, prequel de Game of Thrones, dont l'action se situera 200 ans avant les événements du Trône de Fer, mais dont HBO n'a pas encore précisé la date de diffusion. 2022 verra aussi le retour de la bande d'ados de Stranger Things.
We will have the best spring break ever.
Une saison 4 attendue à l'été sur Netflix, autour d'un spring break en Californie premier au désastre. Plus proche de nous, le 21 janvier, Ozark, quatrième et ultime saison, scindée en deux.
Les promesses rompues ont des conséquences.
Netflix fait durer le plaisir sadique de voir la famille Bird engluée dans son trafic de blanchiment d'argent pour des barons de la drogue. Autre épilogue, celui de la série multi-récompensée Killing Eve, le 27 février sur BBC America puis Canal+. Dernier affrontement fatal, qui sait, entre la tueuse psychopathe Villanelle et l'ex-agent du MI6 Yves Pollastri. Last but not least, The Crown saison 5 début novembre sur Netflix. Imelda Staunton, la Dolores Umbridge des Harry Potter, sera alors la troisième actrice à prêter ses traits à Elisabeth II.
Merci Alexandra Acoun.
J'attends déjà The Crown avec impatience.
Et moi Killing Eve.
Ben voilà, chacun son style. Merci Laurence. Dans 3 minutes, le Zoom. La suite de notre série Les Oreilles d'Or. Avec les échos acousticiens, ils recueillent les sons de la forêt amazonienne pour la préserver.